Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une petite phrase du ministre allemand de la Défense qui a un peu sonné, il faut bien le dire, les Européens. Il affirme que Vladimir Poutine pourrait s'en prendre prochainement à un pays de l'OTAN dans un délai de 5 à 8 ans, alors que l'Alliance a débuté le plus grand exercice militaire depuis la guerre froide, avec 90 000 soldats mobilisés. Les offensives de Moscou, en réalité, ont déjà commencé, en particulier contre la France, avec une ingérence, on le sait, organisée, et des agressions, comme ce texte voté hier au Parlement russe contre la présence supposée de mercenaires français parmi les soldats ukrainiens. Mais ce soir, nous évoquerons aussi le bras de fer entre Kiev et Moscou sur l'origine d'un tir de missile qui a mis à terre un avion faisant 74 morts selon Moscou, un avion russe, vraisemblablement des soldats ukrainiens qui faisaient l'objet d'un échange de prisonniers. La France dans le viseur de Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction En langue russe à RFI. Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française, vous êtes écrivain et auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, publié chez Flammarion. Avec nous ce soir, Alban Micosi, vous êtes grand reporter international à France Télévisions. Vous avez été en poste à Moscou. Je cherchais combien de temps vous avez été
en poste ?
6 ans. Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique au Figaro. Vous êtes vous aussi ancienne correspondante en Russie. Citons votre livre Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à tous. Merci de participer. Bonsoir. C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner vers vous, Guillaume Ancel. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce crash ?
Alors, on sait surtout les nombreux mensonges qui ont déjà été proférés au sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'un avion de transport, l'Ilyushin 76, c'est un gros avion de transport, très régulier dans le transport militaire, qui a été abattu à proximité de Belgorod. On sait que c'est un missile...
En territoire russe.
En territoire russe. Et on sait que c'est un missile anti-aérien qui l'a abattu. Le problème, c'est que ce type de missile est disposé des deux côtés. Donc c'est pas ça qui nous donne une indication de qui a tiré. Ce qui est sûr, c'est que le bilan annoncé immédiatement par le ministère russe de la Défense est complètement faux. C'est-à-dire qu'ils annoncent 65 prisonniers ukrainiens qui auraient été dans cet avion, avec 3 gardes, ce qui déjà fait rire tout le monde, parce que quand il y a 65 prisonniers en convoi, il y a au moins une quinzaine de gardes avec eux. On escorte des prisonniers, surtout que ce sont des soldats professionnels, donc ce sont des gens qui vont tout faire pour s'échapper. Et puis, ça n'a aucun sens, les affirmations qui ont été données par Moscou, parce que cet avion quitte Belgorod. Donc on ne voit pas très bien comment, dans le cas d'un échange de prisonniers, on aurait fait partir des prisonniers plus loin en territoire russe. Donc tout ça, sans la récupération sur un fait réel, il y a un avion qui est abattu, peut-être par les Ukrainiens, mais peut-être aussi par une erreur de la défense antiaérienne russe, qui est coutumière du fait, parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de tirer contre des drones, donc ils ont très bien pu faire ce genre de confusion. Et là, les Russes se précipitent dessus pour inventer une histoire qui, quelque part, va blâmer les Ukrainiens, mais qui n'est fondée sur rien.
Mm-hmm. Alban Micosi ?
Il y a de gros doutes. Je partage ce que dit...
comme souvent dans ces affaires-là. Il y a
de gros doutes. Alors, évidemment, les Russes demandent... on nomme une commission d'enquête. Oui. Les Ukrainiens veulent une enquête internationale. Ce qui est sûr, c'est que le site va être nettoyé avant que qui que ce soit puisse y avoir accès et qu'on ne saura jamais, on peut le dire ce soir, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé.
Mais quel est l'intérêt pour les Ukrainiens de shooter un avion dans lequel il y a des prisonniers ukrainiens ?
C'est une zone de guerre. C'est une zone de guerre. Les Ukrainiens peuvent... avoir visé cet avion, pensant que c'est un avion de transport de troupes russes, qu'à l'intérieur, et pourquoi pas, des missiles russes. C'est ce qu'on a entendu du côté ukrainien à un moment, au début, parce qu'il est clair que l'explosion de l'avion, elle est double. Lorsque l'avion est touché, il y a une première explosion peu importante, il y a une très grosse explosion au sol. Est-elle due au fait qu'il transportait des munitions ? C'est possible.
Elsa Vidal ?
Je reste frappée par le fait que, par une concordance de calendrier, sans vouloir verser dans le complotisme, mais ce crash d'avion arrive la veille, finalement, de la condamnation à Moscou à 4 ans de prison d'un blogueur pro-guerre, condamné pour extrémisme, qui a été aussi le ministre de la Défense de la République fantoche de Donetsk, et qui surtout qui a été condamné à La Haye pour avoir participé à avoir abattu un avion civil, le MH17, qui a été abattu au-dessus de Donetsk en 2014 et qui a fait 300 morts. Donc voilà, cette espèce de collision dans les dates à propos de ces affaires aéroportées m'amène à penser que ça, c'est un très bon contre-feu pour pas trop s'apesantir sur cette déjà responsabilité de la Russie dans ce crash d'un avion quand même civil, 300 personnes, des ressortissants principalement néerlandais, c'est énorme.
Isabelle Lasserre, le Conseil de sécurité de l'ONU, selon la formule, s'est réuni en urgence. Qu'est-ce qu'on craint dans une affaire comme celle-ci ?
S'est réuni en urgence à la demande de Moscou. Oui. Et d'ailleurs, tout ça concordait avec une venue du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à New York. Ouais. Les deux parties peuvent avoir, en fait, descendu l'avion. Les Russes l'ont déjà fait. Ils ont donc abattu le MH17 de la Malaysian Airlines à l'été 2014. Quant aux Ukrainiens, ils ont fait de Belgorod une zone de guerre contre laquelle ils effectuent des frappes en profondeur. Et il y a une suspicion, cet avion aurait pu transporter des armes, notamment des armes de Syrie, ou alors voire même des parties de défense antiaérienne S-300. Ce qui est intéressant, c'est que Moscou utilise ce crash d'avion pour faire une espèce d'énorme opération de propagande.
Et là, pour dire quoi ?
Ben, pour dire, regardez, ce qui est incroyable, c'est que ça marche dans la moitié des médias européens. Qu'est-ce qu'on a vu hier ? Un avion russe avec 60 prisonniers ukrainiens dedans, abattus sans doute par les Ukrainiens. On n'en sait rien. Et en plus, la probabilité que des prisonniers ukrainiens soient dans l'avion est quand même aujourd'hui assez faible. Il peut s'être passé plein de choses. Soit les Ukrainiens ont
quitté un avion... Juste pour les gens qui nous regardent, il y avait quand même dans les tuyaux un échange de prisonniers.
Il y avait un échange de prisonniers. Jusque-là, pour l'instant, on a absolument... aucune preuve que ces prisonniers se trouvaient dans l'avion. Or, la moitié des médias européens et en France ont repris la propagande de Vladimir Poutine. Et à la fin, il reste une phrase, calomnié, il en restera toujours quelque chose.
Eh ben, on va beaucoup en parler ce soir de cette façon de faire pression d'une certaine manière et c'est une forme d'ingérence, y compris vis-à-vis des médias français de la part des Russes. Ça fait longtemps qu'ils le font et là on est à l'approche des élections européennes, ça devient évidemment très stratégique. Vous vouliez dire un mot ?
Juste rajouter une chose que j'ai omis tout à l'heure, alors que c'est un détail croustillant, c'est que dans la liste des personnes qui seraient mortes dans le crash, il y a 13 prisonniers ukrainiens qui avaient déjà été rendus à l'Ukraine.
Et cette liste a été rendue publique par la propagandiste du Kremlin, Margarita Simonian.
Est-ce qu'on est sûr qu'il y a eu un crash ? D'accord.
Bon, allez. C'est la seule chose qui soit sûre.
Allez, on avance. En tout cas, c'est encore un épisode, et vous le confirmez, entouré d'un grand flou. Qui est à l'origine du tir qui a conduit au crash d'un avion avec à son bord une soixantaine de prisonniers de guerre ukrainiens dans la région de Belgorod ? Enfin, visiblement, même ça est à prendre avec des pincettes. La Russie accuse Kiev, dénonce un acte de terrorisme monstrueux. Zelensky demande une enquête, alors que l'Ukraine a renforcé ces dernières semaines ses frappes sur le territoire russe. Vladimir Jean et Nicolas Baudry-Dasson.
Le crash a eu lieu hier, capté au loin par la caméra d'un téléphone portable. C'est dans une petite ville de la région de Belgorod, à 45 km de la frontière avec l'Ukraine, qu'un avion de transport militaire russe a été abattu. À son bord, 65 prisonniers de guerre ukrainiens, transportés d'après Moscou, en vue d'un échange avec l'Ukraine.
Nous avons vu un objet volant long et rouge. Ensuite, on a entendu une explosion. On a vu un flash rouge. C'était à environ 3 km du village.
En déplacement à l'ONU, le ministre russe des Affaires étrangères accuse l'Ukraine d'être à l'origine du crash.
Une nouvelle preuve de l'utilisation de méthodes terroristes par le régime de Kiev vient d'être apportée ce 24 janvier. C'est une attaque terroriste puisque l'avion russe a été abattu et que tous les passagers et les 6 membres de l'équipage sont morts.
Le président ukrainien demande, lui, une enquête internationale à l'ONU et à la Croix-Rouge.
Il est évident que les Russes jouent avec les vies des prisonniers ukrainiens, avec le sentiment de leurs parents et les émotions de notre société. Nous devons établir clairement tous les faits, autant que possible, étant donné que la chute de l'avion s'est produite sur le territoire russe qui échappe à notre contrôle.
Sur le terrain, l'Ukraine revendique une frappe de drone contre une raffinerie située dans le sud de la Russie, qui a eu lieu hier soir. Aucune victime, mais l'unité de traitement de pétrole a été endommagée. la stratégie ukrainienne, frapper les infrastructures de l'économie russe et notamment tout ce qui touche au carburant. Sauf que sur le front, près de 2 ans après l'invasion russe, l'Ukraine doit faire face à une urgence.
Le manque de munitions est un problème très réel auquel nos forces armées font face présentement. Nous devons trouver le moyen d'y faire face ensemble.
Kiev aurait besoin de 3 millions de munitions par an, quand l'Union européenne ne lui en a fourni qu'environ 300 000. Une faiblesse que Moscou continue d'exploiter. Hier, en pleine nuit, c'est la ville portuaire d'Odessa qui a été ciblée par des drones. Certains sont tombés sur des immeubles résidentiels de la ville. Au moins 6 personnes ont été blessées. Une guerre qui s'éternise et pour la première fois, le ministre allemand de la Défense estime que la question n'est pas de savoir si, mais plutôt quand la Russie agressera un pays de l'OTAN.
Nos experts s'attendent dans 5 à 8 ans à une période au cours de laquelle cela pourrait être possible.
Un ton alarmiste. Le retour de la guerre, c'est également ce qui préoccupe l'OTAN, qui a décidé de montrer les muscles avec le lancement de Steadfast Defender, défenseur inébranlable. Un exercice militaire pour s'entraîner à affronter un adversaire comparable à l'OTAN, la Russie.
Tout ne se passera pas comme prévu dans les 20 prochaines années. Je ne dis pas que tout ira mal demain, mais nous devons prendre conscience que la paix n'est en rien acquise.
Plus d'une trentaine de pays, 90 000 soldats, 50 navires de guerre mobilisés. C'est la plus grande simulation organisée par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide.
Et nous allons revenir sur cette déclaration du ministre des Armées allemand qui a un peu sonné, je le disais, les Européens. Mais d'abord, cette question qui fait écho aussi à ce qui s'est passé à Belgorod avec ce crash d'avion. Des combats ont-ils régulièrement lieu en Russie ?
Non, régulièrement non, mais ils ont eu lieu à intervalles quand même assez rapprochés l'année dernière. Enfin, je veux dire, en 22. Oui. À la fin de l'année 22, et puis ponctuellement dans la région de Belgorod. Mais en fait, on est revenu à cette pratique des forces ukrainiennes après l'intermède de l'été. En fait, il y a eu de nouveau un changement de stratégie où ils sont repassés à l'offensive avec pour objectif de déstabiliser finalement les autorités russes en les amenant à reconnaître qu'elles ne protègent pas correctement la totalité du territoire, en amenant une partie de la population frontalière à considérer justement que leurs autorités amènent la guerre en Russie et un petit peu à scinder les autorités locales de celles de Moscou.
Revenons sur cette déclaration qu'on a entendue tout à l'heure de Boris Pistorius, qui est le ministre allemand de la Défense. Il a dit « Nous entendons des menaces du Kremlin presque tous les jours. Vladimir Poutine pourrait attaquer un jour un pays de l'OTAN ». Bon, forcément, ça sonne aussi comme une forme d'alerte pour les Européens.
Mais il a raison. Il a raison. Et ce qui me surprend, c'est que pour l'avoir repris en fin de semaine dernière, ça a déclenché une réaction, mais quasi nucléaire, des soutiens de Poutine en France. Je pense notamment au député Thierry Mariani, qui nous explique que pas du tout, il n'y a sûrement aucun danger, et que c'est même choquant d'oser raconter la réalité. On a l'impression qu'on est en 36 avant Munich. Vous savez, les nazis, ils veulent juste récupérer la Tchécoslovaquie, mais après, ce sera bien, on s'arrêtera là. Ben non, je suis désolé. Dans tous les discours Poutine et de son entourage, on retrouve systématiquement cette notion de 1. La Russie de Poutine n'a pas de frontières. Et tout ce qui présente une menace pour lui devrait être à un moment neutralisé ou conquis. On en est même à dire qu'il faut dénazifier les pays baltes. Ça, c'est les propos de Poutine le 16 janvier de cette année. Que l'Est de la Pologne appartiendrait à une espèce d'empire russe. Quant à la Finlande, qui a l'outrecuidance de rentrer dans l'OTAN, c'est désormais une menace pour la sécurité. Et c'est comme ça qu'a commencé les discours avant l'invasion sur l'Ukraine. Ouais.
C'est vrai qu'il faut toujours écouter ce qu'ils disent, les Russes. Et quand on entre dans le détail des déclarations récentes, je cite des gens que vous connaissez, vous, le député Oleg Morozov, qui est ancien du cabinet de Poutine, qui avait dit effectivement que la Pologne devait être dénazifiée et envahi. Le vice-président du Conseil de sécurité russe qui prévoyait en novembre la mort de l'État polonais dans son intégralité en cas de conflit. C'est-à-dire que quand on met bout à bout toutes ces déclarations, On se dit qu'il y a peut-être un projet d'aller au-delà de l'Ukraine, Isabelle Lasserre.
Bien sûr, il faut prendre au sérieux les discours de Vladimir Poutine et toutes ses déclarations, parce qu'en fait, en général, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et si les Européens l'avaient écouté plus tôt, l'Ukraine n'en serait pas là. Parmi tous ses objectifs, Vladimir Poutine en a deux. Le premier est de reconstituer un mélange de ce que fut l'Empire russe et ce que fut l'Union soviétique. Donc, dans ces pays-là, il y a des pays qui aujourd'hui sont à l'ouest, comme les pays baltes. Et le deuxième est de tuer l'OTAN. Donc, il est évident que les premières cibles en fait de Vladimir Poutine après l'Ukraine seront la Géorgie, la Biélorussie et la Moldavie. Mais au-delà. Il est évident que les pays baltes et la Pologne sont dans le collimateur.
La différence, c'est que là, on touche à l'OTAN.
Pourquoi 5 ou 8 ans ? Parce qu'il faudra que l'armée russe se reconstitue. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir demain les armées russes franchir la frontière des pays baltes. D'abord parce que Poutine n'en aura sans doute pas les moyens. Ensuite, parce qu'il n'est pas complètement
fou. Alors, elles servent à quoi, ces alertes, alors ?
Il y a des moyens de déstabiliser.
À quoi servent-elles, ces alertes, de la part de ce ministre allemand ?
Parce qu'il nous parle à nous.
Non, il y a des moyens de déstabiliser. Il y a des moyens de déstabiliser, c'est-à-dire qu'on peut déstabiliser les pays baltes, ça peut être une première étape, en excitant les minorités russes qui sont dans les pays baltes. Et après, on dit, oh là là, regardez, les minorités russes sont des victimes dans les pays baltes, il faut qu'on se porte au secours déjà de la minorité russe. Parce que, comme les Serbes d'ailleurs, en fait, la Russie, dans l'esprit de Vladimir Poutine, va concerne tous les pays où les Russes vivent. Donc potentiellement, ces pays sont des victimes. Donc qu'est-ce qu'il veut dire, le ministre allemand, au passage, quel changement dans la culture et la mentalité de l'Allemagne pacifiste. Ça fait plaisir d'entendre un ministre de la Défense allemand qui enfin comprend le danger stratégique que représente Vladimir Poutine pour l'architecture de sécurité en Europe. Qu'est-ce qu'il veut dire, simplement, que si on n'arrête pas Vladimir Poutine aujourd'hui en Ukraine, eh ben il continuera, parce que c'est ce qu'il fait depuis le début.
Alors, moi, je mettrais un petit bémol technique quand même.
Allez-y.
Je ne crois pas qu'aujourd'hui la Russie puisse mener beaucoup de guerres en même temps. Le risque que la Russie envahisse actuellement les États baltes, il est techniquement compliqué, parce que l'armée russe a déjà du mal à tenir une frontière avec l'Ukraine, un front de 1200 km. Donc c'est normal que le ministre allemand, effectivement, vous avez raison Isabelle, alerte la population européenne, prépare les Européens à renforcer le système de défense. Ça, c'est de la gestion, c'est de la bonne politique. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il a la moindre information sur ce que les Russes vont faire dans 5 ans ou dans 8 ans ? Non, il a des craintes.
Oui, on entendait aussi le responsable militaire de l'OTAN qui dit exactement la même chose.
Mais il considère qu'il faut se préparer. Mais il y a un changement de paradigme à l'OTAN. Vous savez, il y a quelques années, à l'OTAN, il était interdit de citer la Russie comme un adversaire. Là, aujourd'hui, évidemment, on a changé de paradigme. Pour autant, il s'agit quand même de remobiliser le camp occidental.
Il s'appelle Rob Bauer, il est président du comité militaire de l'OTAN et il estime qu'un conflit entre le Kremlin et l'OTAN n'a rien d'impossible. On suit cette crise depuis longtemps, c'était des phrases qu'on ne prononçait pas.
Voilà. Non, mais c'est parce qu'on ne les prononçait pas depuis bien plus longtemps. En fait, ça fait 30 ans qu'on ne les prononce pas, parce que ça fait 30 ans qu'on a donné la priorité à la construction d'une relation assez privilégiée avec la Russie, dans l'Union européenne, mais aussi dans l'OTAN, puisqu'on a créé des structures pour dialoguer précisément avec la Russie. Un conseil pour cela, puisqu'on a écarté l'idée d'intégrer la Russie, mais en revanche, elle voulait être le partenaire stratégique. Donc aujourd'hui, on prend enfin compte de la réalité sur le terrain et on fait ce changement. Je pense qu'il a quand même une finalité politique, c'est d'abord aussi de montrer à la Russie que on a tous collectivement entériné ce changement d'époque. Il est trop tard pour revenir en arrière, que nous faisons front de manière collective, avec cohésion. Nous montrons aussi nos capacités militaires. Et à ceux qui s'inquiéteraient éventuellement du caractère peut-être va-t-en-guerre de cette prise de position, je pense que si ça nous amène à tester des scénarios multiples pour le futur,
c'est tant mieux.
Et à être prêt à plusieurs éventuels l'actualité. On se protège de cette manière d'un dérapage, en fait. À ceux qui disent attention, escalade, je dis non, c'est l'inverse. Ouais. C'est quand on n'a pas envisagé que ça puisse déraper qu'on peut aller trop vite en besogne.
On est aussi dans le rapport de force désormais, évidemment, avec Vladimir Poutine. Oui. On peut peut-être préciser avec vous, Elsa Vidal, qu'il n'y a pas que les Allemands qui ont dit ça.
Non, les Britanniques aussi ont dit la même chose. Et c'est très important. C'est vrai qu'on accuse régulièrement les Britanniques d'être très anti-russes. Je ne pense pas qu'il y ait qui soit anti-russe à l'heure actuelle. En revanche, la guerre dure depuis maintenant plus de deux ans. Bientôt trois. Donc, on est obligé de tenir compte de cette nouvelle menace.
Et pour revenir sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, à tel point que le sujet a fait la une de l'actualité, oui. Le chef des armées britanniques a dit, en gros, l'Ukraine illustre le fait que les armées régulières commencent les guerres, les armées de citoyens les gagnent. Et là, il y a eu une bronca, et le Premier ministre Rishi Sunak a dû dire, non, vous inquiétez pas, on ne va pas remettre la conscription, on ne va pas mobiliser tout de suite pour faire la guerre face aux Russes. On voit que le sujet... dans certains pays, est pris quand même très au sérieux sur l'idée qu'il faudrait, nous aussi, nous préparer.
Le sujet nous bouleverse.
Ben oui.
Parce qu'en réalité, il exprime un impensé dans nos sociétés depuis 30 ans, qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est que nous aurons sans doute un moment à faire la guerre pour préserver notre prospérité et nos valeurs. On a cru pendant trois décennies, c'est Olaf Scholz qui l'a exprimé le mieux devant le Bundestag, nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis. Et là, on découvre avec la guerre en Ukraine que, bien sûr, ce n'est pas nous qui décidons qu'on n'a plus d'ennemis, qu'on est face à un empire menaçant. Et Alban avait raison de souligner tout à l'heure que la Russie actuelle, l'armée russe de Poutine, ne peut pas aujourd'hui. Mais par contre, ce que va essayer de faire Poutine, c'est négocier un cessez-le-feu pour avoir les 3 ou 4 ans pour remonter son armée. Parce que de toute façon, il ne lâchera jamais le morceau. Et une fois qu'il en aura terminé avec l'Ukraine... Oui. Bien sûr qu'il ira attaquer un pays balte ou la Moldavie. De toute façon, il continuera son esprit de conquête. Et là, la question sera, est-ce qu'on sera complètement sidéré comme un lapin dans les feux d'une voiture, ou est-ce qu'on aura préparé quelque chose qui montrera à Poutine que il faut qu'il s'arrête. En fait, je vais reprendre le vieil adage romain, mais si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Or, nous, on a cru qu'on était débarrassé de ce fléau de l'humanité qu'est la guerre, sauf que ce n'est pas nous qui en décidons.
C'est pour ça qu'on fait un grand exercice militaire.
Bien sûr. Vous savez que ça avait été abandonné depuis pratiquement 30 ans. Et là, on découvre avec cet exercice qu'on ne sait plus faire une mobilisation de cette ampleur, c'est-à-dire pratiquement 100 000 hommes, qui doivent travailler ensemble. Or, en face, on a une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Je vais donner juste un exemple de l'impréparation. Aujourd'hui, les Russes alignent entre 3 et 5 000 canons. Et ils ont tiré, en 2023, entre 7 et 9 millions d'obus. Eh bien, nous, aujourd'hui, dans l'armée française, il reste moins de 100 canons d'artillerie. Et on est content parce que cette année, en 2024, on va produire 30 000 obus. Voilà. C'est juste pour dire qu'on ne joue plus dans la même catégorie. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des initiatives européennes pour dire, maintenant, si on veut jouer dans cette cour-là, il faut produire 1 million d'obus, tous les pays européens réunis. Et on ne joue plus à chacun construit son vaccin ou va le piquer à l'autre.
C'est cette initiative, notamment amorcée par Thierry Breton, qui dit qu'il faut mettre 100 milliards tous ensemble sur la table pour renforcer l'armement européen. Pas uniquement pour aider l'Ukraine, principalement pour aider l'Ukraine, mais aussi pour que l'Europe puisse se défendre.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'on a pris acte du fait que la guerre entre États était revenue et que la guerre était revenue sur le sol européen. Par contre, on n'a pas encore pris conscience de ce que ça voulait dire. Je vous donne un exemple. On avait promis 1 million d'obus et de munitions aux Ukrainiens pour le début du printemps. On en a livré l'Europe, à peu près 300 000, c'est-à-dire moins d'un tiers. Dans le même temps, la Corée du Nord a fourni 1 million d'obus à Vladimir Poutine. Alors, le problème, c'est que pour faire bouger une organisation, parce qu'aucun des pays, si Donald Trump est élu au mois de novembre et que les Européens se retrouvent seuls face à ce problème, aucun pays aujourd'hui ne sera capable de prendre le relais des Américains. Or, pour pouvoir faire bouger une organisation comme l'Europe, il faut un consensus. Ce consensus n'existe pas aujourd'hui.
Ce consensus n'existe pas. Non. Sur l'aide à l'Ukraine ou sur la nature et le volume des moyens qu'il faut mettre.
Regardez, l'Allemagne, il y a quelques jours, a mis son veto suite au transfert de missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine, parce que l'Allemagne a peur que les Ukrainiens ne s'en servent pour abattre le pont de Crimée. Et l'Allemagne considère, comme c'est un édifice russe, ils considèrent que c'est un petit peu la Russie, et ils ont peur que les Ukrainiens utilisent ces missiles pour frapper la Russie dans la profondeur. Donc il y a toujours en Europe, je ne parle pas de l'Est de l'Europe, mais en Europe occidentale et au sud de l'Europe, il y a toujours cette idée que, ok, il faut que l'Ukraine gagne, mais il ne faut pas que la Russie perde, parce qu'on a peur du chaos, on a peur de Vladimir Poutine.
Ce n'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron, pour le coup.
Non.
Qui a été clair alors, en disant que nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner la guerre.
Oui, mais Emmanuel Macron n'a pas dit la Russie doit perdre cette guerre. Donc, ça avance. Ouais. Ça avance doucement. Le problème, c'est que, en fait, la guerre russe en Ukraine avance plus vite que la prise de conscience européenne. On est engagé dans une course de vitesse, et si on ne passe
pourtant,
pas la
Dieu
vitesse...
sait que la guerre russe en Ukraine n'avance pas.
Non, ouais. Quand même.
Donc là, la défense européenne okay, avance enfin, y a vraiment
six,
extrêmement
il y a six mois, les Ukrainiens étaient en position de force, et aujourd'hui, sur le front, ouais. Ils sont en position d'infériorité. Donc six mois, ça va quand même assez vite. La Russie a fait remarcher son industrie de guerre. Donc il faudrait un choc européen, et c'est vrai que cette idée de fédérer l'aide et de s'inspirer de ce qui a été fait pour le Covid est une idée formidable.
Ce choc européen, si on revient à la phrase de ce ministre allemand, est-ce que c'est pas ça qu'il essaie de faire, le ministre allemand? Un choc européen pour qu'on accélère sur l'aide
encore
à l'Ukraine.
Une fois, je pense davantage qu'il nous parle à nous, le ministre, bien davantage qu'aux Russes. Est-ce que les Russes ont un projet concret, physique, contre un État européen là? Il y a des déclarations, mais c'est autre chose que faire un projet physique. On l'a vu notamment sur la Transnistrie qui a failli bouger à un moment, au tout début du conflit. Il y avait un document militaire russe qui voulait faire bouger la Transnistrie. La Transnistrie, il y a 1500 soldats russes avec des armes qui datent des années 70.
On va voir dans un instant qu'il a des projets, y compris contre la France, avec il y a d'autres manières de faire la guerre et de fragiliser les Européens. Elsa Vidal, sur cette absence de consensus, je suis un peu étonnée parce que ce que vous nous expliquez mais c'est très juste.
Orban existe, mais je pense qu'on y arrive en fait. Ouais. Ça nous demande des efforts de tractation énormes sur face à un dossier où on n'avait pas été mobilisé et jusque-là qui restait quand même un impensé de la construction européenne. Et on fait des efforts et on progresse très vite puisque le prochain sommet européen, c'est le 1er février. Et déjà là, on a réussi à faire bouger un peu Orban sur ses bases. Donc il faut travailler, il faut peut-être faire de gros chèques, il faut arriver à construire une unité et à avancer.
Enfin, il y a des pays qui sont contre le fait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Il y a des pays qui sont contre le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne.
Il y en a. Mais on va trouver des solutions.
Oui, d'accord.
Juste sur ce qui se passe sur le terrain, vous disiez rapidement que sur le terrain, c'est figé et qu'il y a une infériorité numérique, j'imagine, et en matériel de la part des Ukrainiens.
Les Ukrainiens sont en difficulté, mais les Russes n'ont pas les moyens d'envahir l'Ukraine dans l'état actuel de leur armée. Donc on a une tension sur la ligne de front qui est très forte. Aujourd'hui, il y a une dizaine de zones de combat intenses. Et à chaque fois, aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont l'initiative. Mais ils savent très bien que même s'ils perçaient, ils perceraient de quelques kilomètres. Ils ne pourront pas aller plus loin. Par contre, les Ukrainiens ont parfaitement conscience que dans leur état actuel, il manque de matériel militaire et il manque de bras.
Est-ce que les Européens sont en train de se détourner, les opinions européennes sont en train de se détourner de ce qui se passe en Ukraine, à votre avis? Est-ce que ce sera un des enjeux de ces prochaines européennes?
En tout cas, c'est un enjeu. Oui, c'est un enjeu majeur que de continuer à expliquer aux citoyens des démocraties européennes pourquoi on fait la guerre en Ukraine.
Pourquoi c'est important pour le quotidien des Européens? Je sais que le conflit israélo-palestinien est extrêmement marquant pour toutes les sociétés européennes et pour la société française qui est très clivée et que c'est un dossier qui nous a structurés. On a grandi avec, on a connu la presque paix et donc ça nous frappe énormément. On a raison d'être frappés. Mais je pense sincèrement que pour les 20 années qui viennent, la destinée de cette guerre en Ukraine va être déterminante pour la sécurité du continent européen.
Et si Paris était la cible préférée de Moscou? En tout cas, après les ingérences politiques, le Kremlin alimente la polémique et dénonce la présence de mercenaires français au combat en Ukraine et fait même voter une résolution au Parlement, à la Douma, pour avertir les autorités françaises. Romain Vasnenou et Christophe Roquet.
Texte adopté à l'unanimité. Félicitations, chers collègues. La France fait l'unanimité contre elle au Parlement russe. Les députés de la Douma accusent Paris d'envoyer des mercenaires à la guerre en Ukraine et demandent une enquête.
Des mesures doivent être prises pour empêcher que des crimes soient commis. Nous devons arrêter ceux qui vont sur le terrain et qui sont de mèche avec les nazis et les criminels.
La motion adoptée à l'unanimité n'est pas moins provocante et suggère noir sur blanc des liens entre les dirigeants français et le nazisme.
À qui avons-nous affaire quand on parle de la France et des Français ? Aux héritiers idéologiques du légendaire président français, le général de Gaulle, ou au soutien du collaborateur et criminel, le maréchal Pétain ?
L'affaire a débuté la semaine dernière. Au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de nouveaux renforts balistiques pour l'Ukraine, l'armée russe fait une annonce choc. Elle aurait tué 60 mercenaires français au cours d'une frappe à Kharkiv. Aucune preuve, aucune image, mais la télévision russe est en boucle.
Est-ce qu'ils vont encore mentir et inventer une histoire, prétendre que c'était des femmes enceintes et pas des mercenaires français?
L'Occident va faire comme d'habitude, tout dissimuler.
Des accusations graves, puisqu'elles sous-entendent que la France ferait directement la guerre à la Russie en envoyant des hommes. Démenti formel du Quai d'Orsay.
La France n'a pas de mercenaires, ni en Ukraine ni ailleurs, contrairement à d'autres. Il s'agit d'une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux précédentes et qu'aux suivantes, qui ne manqueront pas d'arriver.
Alors, à quoi joue le Kremlin ? Mercenaires, nazis, collaboration, cherche-t-il des prétextes pour étendre son invasion vers l'Ouest ? Ces coups montés inquiètent de plus en plus les Occidentaux. En juin dernier, c'est toute une campagne de fausses informations qui a été lancée contre la France. De faux communiqués, siglés « ministère des Affaires étrangères », affirmant qu'une taxe serait instaurée pour financer le soutien à l'Ukraine. Ou de faux articles du Monde, du Parisien, grossièrement anti-occidentaux.
Les États-Unis ont perdu leur leadership et livrent l'Ukraine aux Russes. Un nouvel ordre mondial se construit sous nos yeux.
L'essentiel, c'est de dire que la guerre en Ukraine est en train de ruiner l'Europe entière et que les pays occidentaux devraient arrêter d'envoyer des armes en Ukraine et de financer l'effort de guerre ukrainien sous peine de famine, de désastre économique pour la population.
Un discours relayé aussi par des responsables politiques français, comme les dirigeants du RN. Une enquête du Washington Post les accusait il y a quelques jours encore de reprendre systématiquement les éléments de langage de l'État russe.
On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses que pour le peuple français que pour la Russie.
Le grand danger, et pardon de penser à la France et aux Français, c'est la contagion de cette guerre en guerre mondiale.
Les liens entre le RN et Moscou renforcent les craintes d'une ingérence à quelques mois des élections européennes.
Ces patriotes de pacotille, pendant qu'ils chantaient les louanges du tyran de Moscou, eh bien les milices Wagner en Afrique ciblaient directement nos soldats. Toutes les solutions qui sont portées par le Rassemblement national sont des solutions idéologiques fondées sur le mépris de la démocratie libérale et la haine de la construction européenne.
Une dizaine d'élections nationales auront lieu sur tout le continent européen cette année, de la Moldavie au Royaume-Uni, les démocraties en péril face à un ennemi désormais connu, la désinformation.
Et nous nous disions pendant ce reportage, Alban Micosi, que la guerre, elle est là.
Oui, la guerre, elle est là. Alors, sur l'histoire des mercenaires, pour faire court, parce que les téléspectateurs vont peut-être se poser la question. Officiellement, il y a 60 combattants français qui ont été tués. C'est ce qu'on a dit à la Douma.
Oui.
La Douma, c'est le Parlement russe. Je vous rappelle que Douma, ça veut dire la pensée. Il y a un endroit où on ne pense pas, c'est le Parlement russe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait 60 Français qui étaient morts. Une semaine après, on saurait. On aurait leurs identités, on saurait qui c'est, on aurait vu leur corps. Or, on n'a vu aucun corps, on n'a aucune identité. C'est du pipeau. Voilà.
Pour c'est du pipeau. Voilà. Et pourquoi ? Quel est
alors,
le but ?
Là, c'est intéressant.
Pourquoi cibler ces mercenaires, soi-disant mercenaires français, faire voter un texte au Parlement européen ? Quel est l'objectif ?
Quand est-ce que ça intervient ? Cette frappe, elle intervient quelques heures après qu'Emmanuel Macron ait annoncé l'envoi à Kiev de 40 missiles Scalp, qui sont des missiles qui font du mal à la Russie. Guillaume pourra développer cette information. C'est une annonce qui a beaucoup agacé le Kremlin. Ça, on le sait. Tous, très bien. Ouais. Donc, on fait payer à la France cette annonce. Ouais. On fait payer à la France sa rébellion. Parce que longtemps, la France, elle a été... Mmh. On pouvait lui parler fort et elle se couchait.
Mmh. Elsa Vidal.
Je pense que aussi, exactement, pour continuer dans la lignée d'Alban, c'est aussi dans le contexte de la campagne préélectorale en Russie, c'est important, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de Russes qui sont mécontents de cette guerre, de laisser entendre que la Russie n'en est pas responsable et qu'il y a que les pays européens, l'Occident global, mais aussi la France, commencent à se livrer à des activités hostiles, attaquent la Russie, et puis c'est faire payer à la France le fait que finalement, elle a rejoint les autres alliés et qu'elle a cessé de prêter une oreille trop attentive aux doléances de Moscou et que maintenant elle répète, j'espère qu'on restera sur cette ligne, à quel point elle soutiendra l'Ukraine tout le temps nécessaire, quel que soit le soutien nécessaire. Et ça, on va nous le faire payer et beaucoup.
Sur la question des mercenaires, on sait qu'il y a des Français qui sont allés combattre.
Évidemment.
Il y a une différence complète entre des volontaires français, oui, qui sont allés, comme des volontaires du pays
du monde entier, bien sûr.
Ils sont allés se battre là-bas, mais ils le font librement. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye pour aller faire ça. Il n'y a pas de mercenaires français et il y a des conseillers français qui viennent ponctuellement aider, mais qui ne sont jamais engagés au combat direct, qui sont plutôt dans des états-majors et souvent distanciels pour dire attention, là, vous êtes en train de faire une connerie ou tel truc, ça se prépare de telle manière. Il n'y a pas de mercenaires sur la zone de combat.
Ils ne sont pas rassemblés à 60 dans une salle secrète.
Comme l'a dit Alban. Par contre, on voit bien, toujours dans cette campagne, en fait, avec cette arme de propagande russe, on profite d'un événement, le crash de l'Ilyushin 76, peut-être abattu par eux-mêmes, d'ailleurs sans même l'avoir voulu. Et on en fait un objet de communication. Là, le message que nous envoient les Russes, c'est ne vous impliquez pas dans cette guerre. Retirez-vous.
Pourquoi ?
Parce qu'ils savent très bien que si aujourd'hui ils n'arrivent pas à gagner la guerre en Ukraine, quand même un pays quatre fois plus puissant que l'Ukraine qui s'est attaqué à l'Ukraine. Tout le monde a dit, moi y compris, que malheureusement, en 3 semaines, ce serait réglé. Les Ukrainiens ont résisté d'une manière extraordinaire, pour plein de raisons, mais aussi parce qu'ils bénéficient d'un soutien puissant de l'Union européenne. Quand l'Union européenne est ensemble, elle est aussi puissante que les États-Unis. Et ça, les Russes l'ont très bien compris. Ce qu'ils voudraient, c'est dissuader les Européens d'intervenir sur le sujet. Et vous allez voir dans la campagne pour les Européennes, comme on devrait poser la question à chacun des candidats de qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Non pas pour dire qu'il y a une guerre en Ukraine, c'est mal, comme le fait Rassemblement National aujourd'hui, mais pour faire comme Raphaël Glucksmann, pour dire qu'est-ce que vous allez faire pour que l'Europe interdise à la Russie de gagner en Ukraine. Et là, on serait très étonné par le Rassemblement National, dont on voit bien que la politique est d'absolument nous dissuader, nous endormir sur la dangerosité
de le risque de l'embrasement et le risque de la Troisième Guerre mondiale, comme on l'a entendu dans le reportage. Isabelle Lasserre, sur le fait que, et c'est le titre de cette émission ce soir, ce qu'on découvre en tout cas, c'est que parmi toutes les cibles européennes que Poutine peut avoir dans son viseur, il y a un statut particulier, malgré tout, pour la France. Est-ce que c'est pour la France ? Est-ce que c'est pour Emmanuel Macron ?
Alors, c'est les deux, mon général.
D'accord.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, précisément jusqu'au mois de juin 2023, discours de Bratislava d'Emmanuel Macron, la France a été relativement complaisante avec le régime de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a cru pendant très longtemps qu'on pouvait négocier avec un dictateur. Il s'est fait rouler dans la farine par Vladimir Poutine. Mais de manière plus grave, il y a de nombreux courants politiques en France qui ont soutenu Vladimir Poutine. À la fois à l'extrême droite, donc le Rassemblement National, à la fois à l'extrême gauche.
Chez les Républicains, François Fillon.
J'ai pas fini.
Pardon, Isabelle.
Et il y a aussi, dans une partie de la droite, une tradition d'anti-américanisme de la France qui explique, en fait, cette manière qu'a toujours eu la France de se déporter vers la Russie pour faire un pendant aux États-Unis. Par ailleurs, la France est l'un des deux pays leaders en Europe, donc c'est le pays qui compte. On a un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est par la France. Si la France tombe, toute l'Europe tombe. Donc il y a plein de raisons. Et aujourd'hui, les Russes se vengent du fait que Emmanuel Macron ait durci sa position vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et depuis son discours de Bratislava, il n'a fait que consolider son soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Dernière chose, le verbatim, en fait, de Vladimir Poutine vis-à-vis des Russes, c'est de dire que c'est l'OTAN qui attaque la Russie. Mmh. C'est une guerre menée par l'OTAN contre la Russie. Donc quand ils produisent un fake news comme une attaque, un bombardement de mercenaires russes, c'est dire, regardez, l'OTAN attaque la Russie.
Qu'est-ce qu'il faut redouter en termes de guerre informationnelle à l'approche de ces élections européennes ?
L'exploitation de toutes les divisions de la société française, que ce soit, en fait, toutes les défiances envers les institutions vont être investies, que ce soit parce qu'effectivement, on reprochera de sacrifier le bien-être quotidien et le revenu des Français, à commencer par les agriculteurs, à des Ukrainiens.
Ça, on commence à l'entendre énormément.
Évidemment,
dans les débats,
hein. Et c'est une question de fond. En fait, très souvent, les questions soulevées sont pertinentes, mais les craintes qui sont évoquées ou les solutions proposées sont absolument hallucinantes.
Je fais juste une petite parenthèse sur ce sujet qu'on a évoqué hier sur le plateau, en disant que certains agriculteurs se plaignaient du fait qu'on importe massivement du blé ukrainien ou du poulet trois fois moins cher. Mm-hmm. Là, on est dans il peut y avoir une instrumentalisation de cette information. Là, qui est une réalité.
Il ne va pas y avoir. Il y a déjà.
Il y a de nombreuses années du mariage pour tous.
Exactement. Ouais, les gilets jaunes et les bonnets rouges et les agriculteurs et tous ceux qui se plaindront ou qui se plaignent déjà principalement à droite, puisque la Russie est quand même une obsession plutôt de la droite française, d'une désagrégation de nos normes morales, d'une évolution de la société vers une forme décadente, en pensant trouver en Russie d'ailleurs un alter ego traditionnel, ce qui est absolument faux. La Russie est une société pas du tout conservatrice du point de vue des mœurs. Et donc, tous ces faux-semblants vont être activés pour nous diviser et pour favoriser un chaos social. Si nous sommes face à une crise politique ou sociale, nous sommes beaucoup moins portés à nous occuper de politique étrangère.
Activer, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire donner de l'argent, ça veut dire...
Donner de l'argent à qui ?
À tous ceux qui en auront besoin, à des mouvements qui auront besoin de caisses noires, ça veut dire éventuellement acheter des bots, reposter des...
Des bots, c'est des robots.
Des robots, reposter des messages, créer des chaînes Telegram, créer des chaînes WhatsApp. Et ça permet tout simplement... Les gens doivent savoir que leur téléphone est un autre moyen de voter. Donc avant de reposter une information, pensez à qui elle bénéficie et par qui elle vous arrive. Puisque faire une critique même pertinente sur la France, c'est une chose. Savoir à qui elle sert et à quelle fin on l'a fait, c'en est une autre.
Rassurez-nous, on n'est pas naïf. Elle dit on, l'État, les services. On a appris lors des élections, y compris aux États-Unis, qu'il y avait eu des ingérences russes. Il y a eu des enquêtes avérées qui ont montré qu'ils avaient favorisé l'élection de Donald Trump. Là, on n'est pas naïf.
Alors, on n'est pas naïf, on est surtout très vigilant. Le problème, c'est qu'on est face à une guerre qu'on n'a jamais pratiquée en réalité jusqu'ici, qui est une guerre informationnelle avec surtout les réseaux sociaux, et c'est eux qu'on n'arrive pas à maîtriser. D'autant qu'un réseau comme Twitter, on le voit bien, Elon Musk refuse en fait toute notion de modération, et c'est là où on voit les pires conneries se répandre à une vitesse hallucinante. On peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes tous les matins. Par contre, on voit bien la manière dont c'est instrumentalisé. Je reviens sur l'attaque de Thierry Mariani. Qui me alpague sur les réseaux sociaux en me disant « Vous affirmez que Poutine est une menace, donnez-nous une source. » J'en donne une.
Des sources.
Mais la source, il l'a laissée immédiatement de côté. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de savoir que dans un débat, il y a des pour et des contre. Non, lui, ce qu'il veut, c'est emmener les Français. C'est « Regardez, on essaye de vous menacer. En fait, on vous instrumentalise. En réalité, tout ça, c'est pour ne pas régler les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. » En fait, ce qui est assez éprouvant, c'est de voir comme le Rassemblement national évite absolument le sujet de l'Ukraine pour ne pas se faire mal dans le soutien qui, pour moi, est avéré à la politique de Poutine et qui pose la question tout simplement sur l'indépendance de la France et de l'Union européenne.
On parle de la France, mais on pourrait parler de ce qui se passe aussi en Allemagne. Est-ce que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, a aussi les mêmes liens ? En tout cas, il y a les mêmes risques d'instrumentalisation liaison avec les élections européennes dans d'autres pays. C'est ça
bien sûr. Alors, les deux cas, la France et l'Allemagne, sont très intéressants parce que la proximité de la France avec la Russie était une proximité politique, culturelle, alors que la proximité allemande était une proximité essentiellement économique. Mais le danger existe aussi là. Mais moi, je pense qu'on est naïf. On sait qu'on est attaqué par les usines à troll, etc. Mais proposer régulièrement, dire régulièrement, bon, il va peut-être falloir que Zelensky négocie avec Vladimir Poutine, c'est d'une naïveté totale, parce que Vladimir Poutine ne veut pas négocier.
Qui dit ça ?
Ah ben, l'Allemagne, de temps en temps, la France l'a dit plusieurs fois, alors là, elle ne le dit pas. Mais c'est dans l'inconscient des... C'est quand même toujours dans l'inconscient des pays européens. Reprendre, comme certains médias l'ont fait, sans vérifier hier les informations, un avion russe avec 65 combattants prisonniers ukrainiens dans l'avion, je suis désolée, c'est une preuve de naïveté. Donc si on n'est pas encore sorti de cette période de naïveté, des dividendes de la paix, on a ouvert un œil, mais l'autre est encore à demi fermé.
C'est toute une vision du monde en réalité, tout un héritage qui est à revoir, parce que la plupart des hommes et des femmes politiques qui ont été aux affaires et qui ont pris les décisions, qui ont modelé finalement le territoire européen de paix et de guerre depuis 1945, ont accepté, parce que c'était l'état de sortie de cette guerre, l'idée de zone d'influence, y compris pour l'URSS. Et aujourd'hui, c'est difficile de quitter ce réflexe et de se dire, je suis désolée, l'Ukraine n'est pas une zone d'influence.
Est-ce que les intérêts français en Russie, est-ce qu'il y en reste et sont-ils ciblés ?
Oui, il en reste, ils sont ciblés, ils n'arrêtent pas de dire à quel point d'ailleurs ils se demandent quand est-ce qu'ils vont être les prochains.
Pour petite on parle des entreprises françaises.
On parle des entreprises françaises, mais moi, à ma grande surprise, on a publié hier une information venant d'Unifrance. En fait, l'année 2023 a été une année de surperformance du cinéma français en Russie. On a vendu énormément de billets, énormément de films. On n'a jamais fait autant de bénéfices. Et après, bah, on voit Danone s'est fait tacler. Les autres responsables d'entreprises ont peur d'être mis à l'amende, puisque maintenant, le prix de sortie est très élevé. Et puis, ils ont surtout peur de ne pas pouvoir rentrer. Vladimir Poutine leur a dit, en fait, une fois que vous serez sortis du marché russe, vous ne re-rentrez pas. Et tout le monde a peur de ça, de devoir vendre déjà ses actifs à la baisse et en plus de ne pas pouvoir revenir plus tard. Donc il y a des entreprises qui continuent de rester.
Mais il paraît que sur la liste du bureau du ministre de l'économie au Kremlin, je ne connais pas son nom, il y a une liste des entreprises gentilles, des entreprises méchantes.
Oui, une liste verte, une liste rouge. C'est ce qu'ils...
Et les entreprises françaises sont du côté des listes de...
Ah oui, c'est mélangé. Il y en a qui sont très loyales et très sympas avec les autorités russes.
D'accord, encore longtemps. Aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, évidemment. On a investi tellement d'argent depuis 30 ans, on a fait tellement d'efforts pour se développer avec la Russie que bien sûr, on a peur d'être les dindons de la farce si on se retire.
Une information que je voudrais vérifier avec vous, est-ce une information, est-ce une fake news? En tout cas, c'est passé un peu comme ça. Une déclaration du chef du renseignement ukrainien, Kirill Budanov, qui a dit « Il n'y a pas une seule preuve que Evgeny Prigojine est mort ».
Oh non, quand même. Franchement, s'il est vivant, il est sur la même île qu'Elvis Presley. Hein. Alors, il est sorti du jeu politique.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça?
Il faut d'abord comprendre que M. Budanov vient quand même du monde soviétique dans lequel il arrive que des choses qui paraissent évidentes puissent être contestées.
D'accord.
Vous savez, il y a encore des gens qui pensent que Staline n'est pas vraiment mort, n'est pas mort en ce moment-là.
Bon,
quand on a vécu en Russie, on ressent ça profondément. Ouais. Pour ce qui est de Prigojine, bon, sa mort, a priori, ne fait pas de doute aujourd'hui.
C'est lui, a priori, son problème.
Oui, pour la raison principale qu'on ne l'a jamais vu réapparaître et on ne voit pas aujourd'hui où il réapparaîtrait. Vit-il caché dans un monastère dans la Baltique? Non, c'est improbable. Ce Prigojine est mort.
Au mieux, il est mort politiquement.
Oui, il est mort. Et
Pourquoi il dit ça?
Il faut bien comprendre que dans l'esprit, la construction du monde soviétique, toute information peut être contestée. Parce que la pravda, la vérité, c'est ma vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Ouais. Pravda, c'est ma vérité.
Mm-hmm. On rappelle aussi que dans le contexte russe, on le voit bien aujourd'hui, il est absolument impossible de vérifier de sources neutres, et notamment grâce à des journalistes, la moindre information. Regardez ce qui s'est passé avec ce crash. On n'a aucune image étayée de l'endroit du crash. On ne voit pas les corps.
Et on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé.
Un manifeste d'embarquement qui est complètement faux. Donc, comment voulez-vous faire un travail sérieux d'information dans un contexte pareil? Donc, on peut tout contester.
Alors, la question des renforts en hommes, en soldats, est posée à l'Ukraine tant le conflit s'est installé, on l'a bien compris, dans la durée. Et le sujet donne lieu à un débat politique âpre. Les projets de mobilisation de conscrits supplémentaires ne passent pas en Ukraine. Pour les familles qui ont déjà vu partir un père, un fils, un mari, un frère, il a fallu au quotidien apprendre à faire sans. Reportage sur place, Barbara Steck, Stéphane Lopez et Michel Bouilly.
Même au jardin d'enfants, la guerre rattrape Oleg et sa mère. Tu prends quelle voiture? Celle-là? Qui a une voiture comme ça?
Papa?
Oui, papa. Un camion militaire comme celui que conduit son père, mobilisé depuis plus d'un an et demi.
Ces derniers temps, notre enfant a commencé à pleurer le soir en appelant papa. Quand je reviens le soir après le travail, il est fâché contre moi que je ne ramène pas papa. Il me dit « Pars, va chercher papa ». Tout est compliqué.
Maria et son fils habitent dans le nord de l'Ukraine, une région occupée pendant les premières semaines de l'invasion. Aujourd'hui, les soldats sont partis, mais les bombes continuent encore de tomber.
En août, il y a eu une frappe à Tcherniv. Un missile a frappé le théâtre. On était juste à côté. J'ai pris mon fils, je l'ai jeté au pied de la clôture et je l'ai couvert avec mon corps. Et à ce moment-là, il a eu un fou rire. J'arrive. Regarde, il y a un papillon blanc. J'ai consulté le psychologue et il m'a dit que c'était un mécanisme normal de défense et qu'il fallait le surveiller.
L'inquiétude d'une mère, l'absence d'un père parti à la guerre, le quotidien de centaines de milliers de familles ukrainiennes, une nouvelle vie à laquelle Maria a dû s'adapter.
J'ai appris à conduire quand mon mari a rejoint l'armée ukrainienne après la fin de l'occupation. J'avais peur d'une deuxième attaque dans la région de Tcherniv. Et comme mon mari est loin de nous, j'avais peur de me retrouver coincée ici avec mon enfant.
Maria, 31 ans, travaille presque tous les jours. Ce dimanche matin, elle dépose son fils chez sa belle-mère et change de tenue.
Salut.
S'il y a des commandes, je travaille même le week-end.
Avant la guerre, Maria travaillait dans un musée. Mais il y a un an et demi, elle a décidé de reprendre la forge de son mari.
Ça, c'est pas encore monté. C'est une grille de fenêtre. La forge, c'est le travail d'une vie pour mon mari. Et quand il a rejoint l'armée, je voulais et je devais faire quelque chose pour le soutenir. J'ai décidé de continuer, de poursuivre sa passion. Cette affaire qu'il aime tellement. J'ai pris la décision d'essayer de la préserver, même si ce n'est pas au même niveau. Pendant que lui est à l'armée, le feu doit continuer de brûler dans cet atelier.
Le feu continue de brûler. Mais l'absence d'Andrei consume Maria.
Bon, on a toute envie de montrer qu'on est forte, nous les femmes. Tu t'accroches. Mais c'est difficile.
Comme de nombreuses épouses, elle n'a pas vu son mari depuis un an.
La dernière fois, c'était en janvier dernier. 10 jours. C'est bien d'augmenter la permission à 30 jours, mais c'est encore mieux de les donner. Ce serait magnifique.
Maria, un regard perçant et un moral d'acier.
On aurait bien voulu que ça avance plus vite. Mais on comprend très bien que ça n'ira jamais aussi vite qu'on le veut. Une victoire rapide, c'est pas possible, parce qu'il faut des ressources humaines, de l'argent, des armes. Notre victoire dépend de tout ça. Est-ce que ce sera demain? Non, je ne le crois pas. J'aurais bien voulu, mais je garde l'espoir.
L'espoir de la victoire, d'une vie heureuse, Maria et Andrei ont déjà des projets. À la fin de la guerre, ils souhaitent agrandir leur famille.
Et on comprend mieux après ce reportage pourquoi le sujet de l'ouverture de la conscription à davantage de soldats pose un problème aujourd'hui en Ukraine.
Il pose un problème en Ukraine, il pose un problème aussi en Russie, ouais. Parce que personne n'a envie de voir ses proches partir. Et que, bon, effectivement, maintenant, les familles ukrainiennes sont obligées de déployer des efforts pour s'adapter qui sont gigantesques. Et moi, je suis quand même tout à fait frappée par leur position qui n'est pas du tout une position de victime. Tous les gens que nous voyons dans les reportages sont des gens qui agissent. Ils ne subissent pas, ils construisent activement leur futur et c'est ça qui leur permet de tenir. Et tant qu'on sera face à ce genre de disposition psychologique, il n'y aura pas du côté ukrainien de volonté de reculer. Il n'y a pas pour le moment de...
Ça n'a pas bougé dans l'opinion.
Non, ça n'a pas bougé. Voilà. Et ça bouge dans un sens plutôt négatif en Russie. Je rappelle qu'il y a quand même un candidat aux élections qui s'appelle Boris Nadejdin, oui. Qui a qualifié la guerre en disant opération spéciale d'erreur fatale. Ouais. Et les gens vont lui donner leur signature, et quand on voit des automobilistes qui passent à côté et qui demandent pourquoi on fait la queue, on répond, on fait la queue contre Poutine et contre la guerre. Mmh. Donc en Russie, le soutien à la guerre, il est quand même
pas du tout.
Il n'a aucune chance en mars prochain.
Oui, on va mettre un double, on va mettre un non, petit double bémol. D'abord, il faudra que sa candidature soit acceptée par la juridiction russe, dont on sait qu'elle est aux ordres. Ouais. Quand bien même elle serait acceptée, il faut être courageux pour signer pour lui, parce que vous engagez personnellement avec votre nom et votre adresse à le soutenir. Donc vous,
vous devenez un opposant au régime.
Clairement. Ouais. Donc il faudrait être courageux. Ensuite, il sera privé de tout moyen de communication. Moi, je me souviens d'avoir suivi des couvert des élections en Russie. Si on a envie qu'un candidat fasse 1%, il fera 1%. D'abord parce qu'on ne le verra jamais. Ouais. Quand on le verra, ça sera pour faire des émissions critiques. Et de toute façon, le vote sera truqué.
Ah non, mais je n'ai pas du tout dit qu'il allait être. Oui, oui. C'est parce que je ne dis pas que c'est une alternative. Je dis simplement qu'il y a une volonté, que c'est un indice qu'il n'y a pas de soutien massif.
On peut juste rappeler qu'il y a des élections là.
Le 17 mars.
Voilà, on connaît le résultat.
Le 17 mars, les Russes sont invités à voter pour la réélection de leur président, puisque c'est comme ça que c'est présenté, pour un mandat de 6 ans.
Oui.
Et dans une situation quand même très particulière où la guerre se prolonge.
Tout à fait.
Alors qu'on se souvient qu'au printemps dernier, on a tous espéré que l'offensive ukrainienne qui avait été relativement bien préparée arriverait à percer, qu'on déstabiliserait le front russe et que Poutine perdrait le pouvoir. Je rappelle quand même que là aussi, concordance des événements, au moment où le front aurait pu se renverser, la guerre au Proche-Orient éclate. Ouais. C'est assez surprenant. Enfin, pour moi, ça ne peut pas relever du hasard.
Complot, ouais.
C'est juste impossible, surtout quand on voit que le rôle qu'a joué l'Iran au Proche-Orient, l'Iran étant un allié très proche.
Vous pensez que il y a un lien.
Pour moi, il y a un lien qui est évident entre les deux. Poutine avait besoin de cette crise pour justement baisser la pression et permettre qu'en Ukraine, le front puisse enfin se renverser. Ils étaient dans une dynamique diabolique. Maintenant, ce qui joue contre eux aujourd'hui, en particulier contre les Ukrainiens, c'est que physiquement, ils restent 4 fois moins importants que la Russie. Et donc, ils sont incroyablement dépendants de l'aide. Et donc, si l'aide américaine diminue et que l'aide européenne ne monte pas, alors là, les Ukrainiens sont en très mauvaise face. Par contre, il manque aussi de bras. Et là, il y a une décision politique que le pouvoir ukrainien a du mal à prendre, c'est d'installer cette guerre dans la durée, de dire maintenant tout le monde doit aller se battre, et pas seulement les volontaires.
Sur ce qui s'est passé le 7 octobre, Volodymyr Zelensky lui-même faisait immédiatement le lien en évoquant le rôle de la Russie auprès du Hamas. Alors pas sur le calendrier, mais en tout cas sur le rôle de la Russie auprès du Hamas. Cette question, avec un peu d'ironie, ne faut-il pas espérer le retour de Trump pour que la guerre prenne fin ?
Ah bah, le retour de Trump risque de provoquer un arrêt des livraisons d'armes américaines.
Donc la victoire de Moscou.
À l'Ukraine. Attendez, non, il ne faut pas aller si vite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Ukrainiens seront peut-être contraints de négocier, mais négocier, ça ne veut pas dire que la guerre s'arrête. Ça veut dire qu'elle va reprendre dans un an, dans 2 ans. En revanche, il y a une version plus optimiste. Trump arrête les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'ici là, l'Europe s'est réveillée. L'Europe prend le relais. Elle accentue ses livraisons d'armes. Et l'Ukraine peut gagner.
Tout à fait.
Ouais, ça, c'est la version...
C'est ce qui manque dans le discours de Macron à ce stade.
Oui.
Pour moi, là où il dit « il faut que la France se réarme », formidable. Quand il dit « je prends la tête », enfin, la France prend la tête d'une coalition artillerie, formidable.
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'un œil qui
est ouvert. Oui, c'est ça.
C'est le moment où il nous dira enfin, et maintenant, c'est l'Europe qui va construire sa défense. Et ça, c'est la marche qui lui manque à franchir.
Il dit que l'Europe doit construire sa défense. Depuis longtemps, il est assez seul.
Mais, il ne lui accorde pas la place... Bon. Qu'elle devrait occuper.
Mais les autres pays n'en veulent pas. Derrière.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour l'instant, il prêche sur ce sujet-là un peu seul. Allez, on revient maintenant à vos questions.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.